Vous écoutez France Culture.
Nous ouvrons ce matin un nouveau type de semaine dans la Fabrique de l'Histoire, une semaine dont une historienne ou un historien sera une sorte de rédacteur en chef. Notre invité sera donc toute la semaine Daniel Roche. Il est professeur au Collège de France, spécialiste de la France des Lumières, de la culture des apparences, de l'histoire du vêtement, de la naissance, de la consommation au XVIIIe siècle et également de ce monde équestre dont nous allons parler pendant toute cette semaine. Il a entamé un long travail sur la culture du cheval dont le premier tome est sorti il y a quelque temps aux éditions Fayard. Et le deuxième tome vient tout juste de sortir en librairie sous le titre « La gloire et la puissance, histoire de la culture équestre, 16e, 19e siècle ». Nous en parlerons avec lui toute cette semaine. Il sera avec nous aujourd'hui, mercredi et jeudi, pour débattre de l'histoire du cheval avec d'autres historiens. Demain, nous écouterons un documentaire d'Olivier Chaumel et d'Anne Fleury sur la boucherie chevaline. Mercredi, du cheval en ville avec Daniel Roche et Mathieu Flonneau. Jeudi, de la culture équestre avec Patrick Boucheron. Et aujourd'hui, Daniel Roche a souhaité dialoguer avec quelqu'un avec lequel il dialogue depuis longtemps déjà, Jacques Mullier. Il est historien du droit et il a surpris son monde en travaillant à la fin des années 70, au milieu des années 70, sur ce milieu du cheval et sur ce milieu des haras et en publiant un livre qui vient d'être republié il y a quelques années, Les chevaux du royaume aux origines des haras nationaux dans la collection Histoire et Société chez Belin. On en parlera avec lui. Auparavant, comme chaque lundi, nous vous proposons une balade dans les archives nationales. Une balade qui est concoctée par Séverine Yattard et Séverine Cassard.
Les conférences sont avec les livres.
Je vais prendre votre nom.
Pour la visite de 14 ans,
c'est avec moi.
Bonjour à tous, je suis Magdalena Lacus, je suis conservateur en chef ici. Et le but de cette visite, c'est de vous présenter en fait le Caron. C'est une visite en fait étage par étage pour en fait anticiper le jour où vous reviendrez en tant que chercheur. Pour trouver exactement les bons locaux, les bonnes activités. Pour vos sujets de recherche proprement dit, vous savez que vous disposez d'ateliers plus spécialisés. Donc là, c'est vraiment une sorte de visite générale dans ce bâtiment. Donc vous êtes d'accord sur le principe? Vous ne regrettez rien? Alors on y va, donc c'est trop tard. Ça y est.
La séance est ouverte. L'ordre du jour. Discussion.
On va s'arrêter une minute dans cette salle.
Il y a un mois, le 20 octobre, les Archives nationales organisaient leur 6e journée porte ouverte, occasion pour les étudiants surtout de découvrir et de se familiariser avec ce lieu de recherche. Ils sont environ 400 à y participer chaque année.
Pour le chercheur, c'est de s'inscrire. Alors pourquoi est-ce qu'on s'inscrit? Eh bien en réalité, ici, l'avantage, c'est qu'on va vous remettre une carte de lecteur qui est magnétique. Pourquoi est-ce que c'est utile? Eh bien simplement parce que grâce à cette carte de lecteur, vous pourrez accéder aux salles qui sont sur autorisation, si je puis dire, hein, pour lesquelles vous aurez besoin de passer votre carte magnétique. L'autre avantage, c'est que cette carte magnétique enregistre toutes vos commandes de documents. Donc il faut passer par là, hein, donc ce fameux bureau vitré. Donc le vestiaire, c'est une sorte de vestiaire piscine si vous voulez. Et en fait le but, c'est de vous faire, enfin tout bien tout honneur, vous déshabiller. Ce vestiaire, donc, c'est là qu'on vous demande de poser donc, vos affaires, vos sacs. Et ce qui vous est demandé, c'est d'en ressortir avec uniquement du papier blanc, du crayon à papier, un appareil photo, mais qui sera utilisé sans flash. Voilà. Le tout dans un sac en plastique transparent. Pourquoi crayon à papier, pourquoi papier blanc? Simplement, le crayon à papier, imaginez, nous avons toujours le risque d'un lecteur qui utiliserait un beau stylo bille pour écrire des commentaires ou pour écrire tout court sur des documents d'archives. Vous avez des questions, des remarques?
Quand vous parlez d'appareils photo, est-ce que les smartphones munis de
L'option appareil photo, c'est autorisé ou pas, si on n'a pas d'appareil photo?
Oui, ce qui importe pour nous, c'est qu'il n'y ait pas de flash. Voilà, c'est ça.
D'accord.
C'est ça. Et j'allais dire, même au contraire, nous encourageons les lecteurs à prendre des photos. Autant que vous voulez, du moment qu'il n'y a pas d'interdiction légale sur le document. Mais sinon, au contraire, allez-y au maximum. Vous avez des remarques, des questions? Alors on va accéder au premier étage où se trouve la salle des inventaires.
Sylvie Nicolas, donc nous sommes au 40, hein, dans le Marais. Et aujourd'hui, c'est un peu une journée porte ouverte.
Tout à fait, c'est une journée porte ouverte. Donc le 40 est en fonctionnement normal, il continue à accueillir des lecteurs. Mais nous offrons aux étudiants parisiens ou même de province la possibilité de se familiariser avec les espaces réservés au public. Donc ils ont plusieurs conférences ou plusieurs types de visites qui leur sont proposées. Des conférences généralistes, qu'est-ce que les archives, préparer ses recherches en ligne. Donc il y en a trois dans la journée, trois de chaque dans la journée. Ils ont également des conférences spécialisées sur l'histoire de l'art, sur l'histoire de la justice ou l'histoire de la police. Voilà pour les conférences. L'intérêt aussi réside dans les ateliers où les étudiants peuvent rencontrer les responsables de fonds, conservateurs, chargés d'études, secrétaires de documentation. Et c'est important aujourd'hui que les étudiants continuent à fréquenter les archives nationales pour leurs travaux historiques.
Tout à l'heure que c'est une visite un petit peu architecturale ici. Le choix qui a été fait au carreau, c'est de séparer l'étage des inventaires, des instruments de recherche et celui de la salle de lecture où l'on consulte les documents. Imaginons par exemple que vous recherchiez la bête du Gévaudan. Enfin, pas la bête, hein, bien sûr, mais les archives relative à la bête du Gévaudan. Alors, la bête du Gévaudan, a priori, c'est un loup. Qu'est-ce qu'un loup ? Un animal nuisible. Le loup gêne qui ? Plutôt les bergers, les agriculteurs. Et là, on touche du doigt la logique archivistique. Qui dit agriculteur dit ministère de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture, selon notre principe, ce fameux cadre de classement, correspond à F, la lettre pour les ministères, et ensuite l'agriculture, eh bien, c'est 10. Dans un centre de documentation, vous seriez allé directement vers un dossier qui se serait appelé loup ou bête du Gévaudan. Alors que vous avez vu que la logique des archives, ce n'est pas par sujet, ce n'est pas par thème, c'est ce que l'on appelle par producteur. C'est le ministère de l'Agriculture ou son ancêtre sous l'Ancien Régime qui gérait les animaux nuisibles, dont les loups, dont la bête du Gévaudan. Voilà, c'est ça un petit peu, je dirais, la difficulté de la recherche. Parce qu'à ce niveau-là, c'est tellement détaillé que franchement, rassurez-vous, on finit toujours par trouver ce que l'on cherche.
Séverine Liattard, Renaud Dalmar.
Voilà un nouveau feuilleton, une nouvelle balade aux Archives nationales. Vous pouvez évidemment la télécharger séparément du reste de l'émission pour la conserver par-devers vous, également écouter cette émission jusqu'à son terme, puisque nous entamons une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire, un type d'émission que nous n'avons encore jamais essayé jusqu'à maintenant, donc de donner une sorte, entre guillemets, de carte blanche à un historien que nous aimons bien. Bonjour Daniel Roche, merci d'être avec nous. Merci de nous accompagner toute cette semaine sur une histoire du cheval, donc donc un sujet que vous traitez maintenant depuis plusieurs années, et vous venez de publier donc un deuxième tome à votre grande histoire de la culture équestre, donc chez Fayard, La gloire et la puissance, après avoir, il y a quelques années, c'était l'année dernière ou il y a deux ans,
2008,
donc publié Le cheval moteur, en séparant d'une certaine façon la façon dont on conçoit le cheval dans ces sociétés, le cheval qui permet le développement économique, et l'autre côté, c'est le thème de ce deuxième tome, donc la façon dont on utilise le cheval pour sa propre puissance et sa propre gloire dans la société, disons, moderne du 16e au 19e siècle. Et donc, on vous a appelé, on vous a dit, avec qui voudriez-vous dialoguer dans les diverses émissions que nous allions faire autour du cheval? Alors, vous nous avez dit avec Jacques Mullier. Alors, moi, il se trouve que je ne connaissais pas Jacques Mullier. Bonjour, Jacques Mullier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Mais c'est un vieux dialogue, un dialogue qui remonte à loin que vous avez entre vous. Vous pouvez nous expliquer pourquoi, vous, le professeur au Collège de France, qui a travaillé sur le 18e, sur la France des Lumières, avant de lancer cette grande œuvre autour du cheval donc, et de la culture équestre. Comment vous avez rencontré Jacques Mullier et pourquoi vous vouliez continuer à dialoguer avec lui sur ce sujet?
Il y a un lien direct, d'abord peut-être parce que j'ai raté complètement une carrière d'historien de la France rurale ou de l'économie rurale. J'ai été l'élève de Meuvray pendant de longues années. J'ai suivi son séminaire avec beaucoup d'intérêt. Et en même temps, l'un des premiers professeurs de la nouvelle école historique avec lesquels j'avais dialogué était Pierre Goubert.
Mmh. L'historien de
Beauvais, du Beauvaisis, et celui qui a quand même écrit le grand livre sur la France de Louis XIV et ses habitants.
Et, Louis XIV et 20 millions de Français.
Et qui était consacré en majorité, évidemment, à la France agraire. Donc j'ai une vieille dimension étant parisien, totalement incapable de comprendre la ruralité, n'ayant pratiquement jamais vécu à la campagne. J'étais donc extrêmement fasciné par ce type d'études, et plutôt par les productions qui n'étaient pas tellement au cœur de l'analyse de ces grands historiens de cette période. Ce qui les intéressait, c'était la population, ce qui les intéressait, c'était les productions et plus particulièrement le blé sous toutes ses sauces.
Alors, on se souvient des grands travaux de Labrousse et de ses Ernest Labrousse et de ses élèves, donc il envoyait pour pouvoir mesurer le prix du blé à la veille de la Révolution française et essayer de faire des critères économétriques pour pouvoir justifier des thèses justement sur les crises rumentaires à la veille de la Révolution en particulier.
Donc à partir de cet environnement en quelque sorte socio-économique de la production agricole, il y avait un grand absent dans tout ça, c'était l'élevage, c'était les animaux ruraux et puis plus particulièrement le cheval. Alors à ce moment-là, se sont passés deux événements. Le premier, j'ai terminé ma thèse en 1973, qui était consacrée à des milieux qui s'occupaient de chevaux mais qui n'en parlaient jamais ou pratiquement jamais, parce que c'est pas un des grands sujets retenus par les sociétés académiques, mais en revanche on le voit apparaître très souvent dans les sociétés royales d'agriculture. Mmh. Donc il y avait là quelque chose, une petite dimension intellectuelle, et cette dimension intellectuelle s'est accrue le jour où un intérêt un peu brutal, inédit, enfin brusque, je me suis mis à lire l'article cheval de l'encyclopédie. Mmh. Et cet article cheval est rédigé par Diderot, ce qui n'était pas quand même complètement inintéressant. Alors à partir de là, j'ai mis une fiche, comme on nous enseignait à ce moment-là à le faire. Elle date à peu près de mai 1973. Et j'ai dit, il faut que je travaille sur le cheval et le philosophe. Un peu avant, Goubert m'avait donné à lire la thèse de ce juriste qui est à notre droite, M. Jacques Mullier, et qui cherchait, je crois,
à quoi faire.
Qui cherchait peut-être à convaincre un environnement, je ne dirais pas hostile, mais assez peu mobilisé sur ce type de questions. Et à ce moment-là, on a commencé à discuter d'élevage et de production agricole.
Alors Jacques Mullier, même question qu'avec Daniel Roche, comment êtes-vous venu, donc en tant que juriste au départ, à ce sujet, les haras nationaux?
Oh, c'est un vieux compte à régler avec l'histoire d'abord. Et je me suis trouvé faire des études de droit, ce qui m'a effectivement passionné. Mais l'histoire était toujours sous-jacente. Et j'avais fait deux DES, ça s'appelait comme ça à cette époque, un de droit privé et un d'histoire du droit. Et en histoire du droit, il fallait faire, c'était le seul à ce moment-là, il fallait faire un mémoire, rédiger un mémoire. Et j'avais choisi dans les matières l'histoire économique, ce qui était déjà un choix étrange dans le milieu de la faculté de droit de Paris. Non, le droit canonique enseigné par Madame Boulay-Sautel, ça ne me plaisait pas beaucoup. Le droit canonique me plaît, mais celui-là, non. Donc, j'étais déjà un peu sur les marges. Et je lui ai demandé un sujet. Il m'a dit tel code d'archives, il travaillait sur l'histoire de l'agriculture, tel code d'archives aux archives nationales, H5, H6, H7, je m'en souviens encore. Et il m'a dit, vous allez trouver ça, ça et ça. J'ai rien trouvé de tout ça. Par contre, je suis tombé sur les haras. En cette occurrence, c'était à l'ara du Boulonnais, du cheval boulonnais. Je commençais à lire ça, je trouvais que c'était tout à fait intéressant, ça correspondait, je crois que mes meilleurs souvenirs de vacances, c'est quand même à la ferme de mon grand-oncle, où il y avait 5 chevaux, et mon rêve, c'était pas d'être historien du droit, ni rien du tout, mon rêve, c'était d'être pépiniériste. Bon, donc par ce biais-là, je me suis rattaché, si vous voulez, à l'agriculture, c'est ça qui m'intéressait beaucoup.
Et c'était un sujet, visiblement, qui n'était pas très en vogue au moment où vous avez commencé votre travail.
Ah, absolument, mais il y avait quand même quelque chose, c'est que M. le professeur Beignet était un cavalier émérite.
Ah oui, on entre par la pratique dans le sujet, c'est ça.
Mais moi, non, pas du tout. Je suis monté quelquefois sur un cheval, mais non, c'était... Ah, comment vous expliquer pourquoi j'ai été voir Goubert? Ben, c'est très simple, je faisais le grand écart... Objectivement, quand vous êtes historien du droit, qu'est-ce que vous êtes d'abord, juriste ou historien? Et comment l'être l'un et l'autre?
Ce sont des questions que les historiens du droit se posent encore aujourd'hui.
Ah oui, c'est pour ça que je pense qu'elle n'existe pas, l'histoire du droit. Mais ça, c'est une autre paire de manches. J'ai eu des problèmes à la faculté de droit, sans aucun... C'était évident. On m'a dit, mais enfin, monsieur, pourquoi vous intéressez-vous à l'élevage du cheval alors que vous êtes juriste? Vous ne devez parler que de l'administration. Et moi, il me semblait aberrant d'essayer de comprendre comment pouvait fonctionner une administration des haras si je ne savais pas comment fonctionnait véritablement l'élevage du cheval. Il m'a fallu faire une théorie de l'élevage.
Une vraie discipline historique, d'une certaine façon, rentrer dans la question de l'histoire.
Absolument.
Et
pour répondre précisément à votre question sur Goubert, à la faculté de droit, on me disait, mais votre thèse, grosso modo, elle sent le fumier, c'est pas intéressant, travaillez, continuez à travailler, si vous voulez être agrégé un jour, à faire de l'histoire, mais de l'histoire du droit, du vrai, de l'administration, si vous voulez. Moi, j'ai traversé la rue Saint-Jacques, c'était pas trop difficile, encore que ce fût un précipice à cette époque, et je suis monté sous les toits et je suis tombé sur Goubert. Il m'a dit, c'est ça là. Et puis, 8 jours après, il m'a rappelé en me disant, c'est très, très intéressant. Vraiment, c'est très, très bien. Laissez tomber tout le droit, ça ne sert à rien. Et puis, développez le... Revenez avec nous, etc. Et j'ai passé mon temps à faire le grand écart entre les deux.
Voilà. Alors, est-ce que vous avez une explication, puisque nous entamons cette semaine avec vous, Daniel Roche, sur l'histoire du cheval, sur ce point noir qu'est l'histoire du cheval au milieu de cette période où, comme vous le racontez dans toutes vos préfaces de vos différents ouvrages sur ce sujet, que ce soit le précédent sur le cheval moteur ou la gloire et la puissance, eh bien, tout de même, le cheval a à la fois une fonction économique, mais également une fonction donc de puissance symbolique. Qu'est-ce qui fait que vos prédécesseurs, à l'un et à l'autre, ont eu aussi peu d'intérêt pour ce type de sujet, selon vous, Daniel Roche?
Ça n'est pas facile à comprendre, mais je crois qu'on peut quand même trouver quelques fils d'explication. Le premier, c'est que dans la société européenne, tout entière, et pas seulement en France, il y a depuis des siècles une classe qui est la classe des écuyers, la classe des spécialistes du cheval, qui a régné en quelque sorte sur l'animal et qui a imposé des critères d'élevage aussi bien que des critères d'utilisation. C'est ce que les anthropologues appellent une société caractéristique des sociétés à écuyer, pour les distinguer des sociétés cavalières. Donc les écuyers apparaissaient également, je pense, dans l'histoire comme les gestionnaires d'une pensée intellectuelle, d'une tradition de rapport à l'animal, d'une tradition de fonctionnalité,
qui restaient complètement étrangers à la majorité de la population. Mmh. Les écuyers étant identifiés avec le privilège, identifiés avec la noblesse pour une part, ce qui n'est pas totalement vrai, il y a des vrais problèmes à poser, mais ça n'intéressait pas en quelque sorte. Les historiens n'étaient pas, à quelques exceptions près, je pense par exemple à Duby qui avait posé la question d'une autre manière en étudiant les trois ordres, les étudiants n'étaient pas très conscients de ce problème-là. La deuxième raison peut-être, c'est que le rapport au cheval passait par l'armée. Et l'armée...
Dans les années 70, l'armée n'était pas forcément très bien vue.
L'armée n'était pas forcément très bien vue, et plus particulièrement dans les classes qui renouvelaient les grandes questions historiques, même s'il y a eu à certains moments des grands historiens d'histoire militaire, mm-hmm. il faut en convenir. Je pense quand même à Corvisier, bien qui sûr. Avait, de ce point de vue-là, tenté d'harmoniser les interrogations d'un Labrousse et sa sociologie avec celle des historiens militaires, et puis il y en a eu d'autres. Il y a eu les Anglais qui, dans ce domaine, ont fait de belles choses, les historiens de la Révolution militaire. Mais en France, ça restait vraiment un domaine tout à fait à part, où on avait l'impression que là aussi, une autre tradition intellectuelle fonctionnait, comme chez les écuyers, il y avait une tradition de publication de traités, d'œuvres, un ésotérisme cavalier difficile à pénétrer si on n'était pas soi-même un tout petit peu lecteur et pratiquant. Eh bien, chez les militaires, c'était pareil. Pour avoir été élevé dans l'équitation par d'anciens maîtres des manèges militaires, je trouve qu'ils savaient, d'une certaine manière, mieux transmettre la tradition que d'actuels jeunes moniteurs qui ont d'autres préoccupations. Ça nous ouvrirait à un tout autre sujet, mais qui ne serait pas inintéressant. Alors, cette tradition-là donne une grande tradition intellectuelle, et puis il y en a une troisième, dans laquelle se perdaient un petit peu les intérêts des historiens, c'est que le cheval était partout, et comme il était partout, il était nulle part. Voilà. On le trouvait dans les sciences, on le trouvait dans l'agronomie, on le trouvait dans l'hypiatrie, on le trouvait dans les sciences vétérinaires, on le trouvait dans les fêtes, bien entendu, et tout cela constituait un mélange que seul le 19e siècle avait osé en quelque sorte désigner en appelant ça la science hippique générale. À partir de là, chacun y retrouve ses petits. Et quand on parle cheval avec les historiens, on se trouve devant des gens qui ne comprennent pas pourquoi vous vous attaquez à ces trois grandes traditions.
Tradition militaire, tradition donc des écuyers, et puis cette tradition, donc cette dernière tradition que vous venez de noter. Alors, Jacques Mullier, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une petite dimension anti-britannique dans ce sujet? Parce que on note tout de même l'importance pour la période qui nous concerne, celle dont on va parler avec vous et avec Daniel Roche, l'importance de la façon dont les Anglais ont perçu cette question du cheval, dont on a été admiratif en France et dans le reste de l'Europe, de la façon dont ils avaient mis en place leurs élevages en particulier. Et on se dit quelquefois, en vous lisant l'un et l'autre, qu'il peut y avoir ce vieux fond d'anti- britannisme français qui aurait pu, d'une certaine façon, mettre à distance un objet aussi intéressant, Jacques Mullier.
Il y a évidemment, selon les époques d'ailleurs, des refus vis-à-vis du cheval tel que les Anglais l'ont façonné. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que... Je suis très ennuyé avec cette question-là.
Je pense que la revue Past and Present m'a commandé il y a 7 ans un article et que j'ai attendu 5 ans avant qu'il le publie. Je ne suis plus pressé à mon âge d'avoir une revue publiée en anglais. J'étais très heureux qu'on m'ait commandé cet article dans lequel j'exposais justement qu'il y avait à relire la tradition intellectuelle britannique par rapport à la tradition française en partie. Et les évaluateurs n'ont pas été très gentils à mon égard puisqu'à chaque fois ils me posaient des questions pour savoir comment je pouvais présenter autrement l'identité britannique. Ceci étant, c'est un vrai sujet, cette identité du rapport au cheval, en particulier parce que la pratique ordinaire des Britanniques s'est maintenue plus totalement près du cheval que dans notre pays, où il y a eu depuis longtemps une certaine rupture, en quelque sorte sociale, et maintenant on peut y ajouter une rupture qui est de l'ordre du gender, de l'ordre de la pratique féminine, alors qu'en Angleterre, c'est resté quelque chose de... jusqu'à une période récente, c'est en train vraisemblablement de changer de la même façon. Alors, le problème de l'identité existe parce que non seulement les historiens anglais croient qu'ils ont façonné le seul cheval, en quelque sorte, qui doit triompher sur les hippodromes, mais aussi ils pensent qu'ils ont inventé la monte cavalière qui correspond la mieux à l'identité démocratique.
Ah oui.
Oui, oui. C'est une monte libre qui se distingue complètement de la monte à la française des manèges, où d'ailleurs il venait s'enseigner. Mais je vois Jacques Mullier hocher la tête. Il a donc quelque chose à dire dans ce sens.
Jacques Mullier.
Moi, je me suis intéressé au cheval. Alors, essentiellement, pour reprendre la terminologie de Daniel Roche, autant au cheval comme moteur. Mais il y a le cheval en tant qu'il est fondement de la société occidentale. Le mot chevalerie, chevalier, dit bien ce que ça veut dire. Et puis, évidemment, il y a l'armée et il y a les loisirs. Tout tourne autour du cheval, ça c'est certain. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est si difficile de travailler sur le cheval. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les historiens s'y intéressent assez peu. Il est plus facile... de théoriser les grains, ce qui met en cause la culture des grains, ce qui met en cause évidemment les systèmes, les différents systèmes culturels et qui ont des conséquences sociales considérables, tout le monde le sait. Celui qui est affamé n'a pas d'oreille, donc ça tombe dans le domaine politique. Pour le cheval, c'est beaucoup plus difficile de théoriser précisément parce qu'il y a tous ces usages différents.
C'est d'ailleurs pour ça, en vous lisant Daniel Roche avec ce deuxième tome de la culture équestre, après avoir lu le premier, donc La gloire et la puissance, donc, que je me dis, effectivement, il faut tout un travail de très très longue durée pour pouvoir mûrir un tel projet en trois tomes, parce qu'il faut savoir comment... le découper, ce projet-là. C'est-à-dire, vous avez fait le premier tome, Le cheval moteur. Le second, c'est donc la question de l'usage du cheval dans une société où il a son importance pour montrer sa puissance et sa gloire. Donc, il faut effectivement retisser, reprendre des liens qui sont très épars. Vous notiez tout à l'heure les fonds d'archives dans lesquels il faut aller chercher. Il faut aller chercher dans des fonds d'archives de vétérinaires aussi bien que de ceux qui géraient les finances des grands du XVIIIe siècle, par exemple. Et donc, il y a un travail assez difficile de reconstitution, dirons-nous, de l'objet lui-même.
La première question, c'est de savoir si la problématique de cette reconstitution est en quelque sorte acceptable dans une évolution de l'histoire qui est véritablement traversée par quantité de questions. On parle d'histoire en miettes. Vous prenez le cheval... vous bâtissez plutôt une forteresse que un terrain épars sur lequel les choses... Donc, vous rassemblez plutôt que vous dispersez.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous en faites un objet d'histoire totale, d'une certaine façon.
Exactement. J'arrivais au mot. Je crois, moi, qu'il est encore nécessaire, quel que soit le pays, quelle que soit la dimension chronologique, que l'on ait un impératif de globalité et de totalité qui... unissent les questions que l'on pose. Alors, le cheval est un moyen de retisser cette totalité par le biais des trois aspects que Jacques Mullier nous rappelait, par le biais de cette grande dimension distinctive qui fait l'objet de ce deuxième volume, qui est dans le fond un problème sociopolitique, c'est-à-dire comment, depuis la fin du Moyen-Âge, le cheval a en quelque sorte incarné un rapport au politique qui passe par le contrôle de la force, qui passe par la pédagogie des enseignements de l'autorité et qui passe par leur transformation dans le passage d'une société à privilège à une société démocratique. Donc c'est un problème qui n'est pas si simple que cela à résoudre. Je ne sais pas si je l'ai réussi, pas plus que pour le cheval moteur, là où j'avais quand même... des éléments qui m'étaient donnés par des travaux comme ceux de Jacques Mullier ou par d'autres historiens de l'agriculture ou quelquefois par des historiens des métiers et du commerce, mais tout ce ratissage, tout ce rassemblement des données me donne, moi, l'impression d'avoir fait une espèce de tapisserie pleine de trous sur lesquels j'aimerais bien que les jeunes générations se mobilisent mais vous dites plutôt que d'une synthèse achevée.
Toujours au tournant d'une phrase ou d'un paragraphe, Daniel Rolf, vous dites on n'a pas assez de données sur ce sujet-là, sur cet aspect-là, personne n'a encore travaillé là-dessus, j'aimerais bien que quelqu'un puisse s'y mettre d'une certaine façon, en lançant des pistes comme ça, en disant ça sera pas moi qui vais le faire, mais est-ce que des jeunes étudiants, des jeunes thésards peuvent se lancer sur cette piste-là, parce qu'il y a sûrement quelque chose, comme une sorte d'intuition. Vous êtes comme un chien truffier en train de chercher l'endroit où il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant. Et là, vous vous dites, il y a sûrement quelque chose, mais il faut y aller voir.
Oui, ben, on pourrait par exemple parler, et nous avons le meilleur spécialiste sous la main, du problème de la réception des haras même à cette histoire des haras.
Ben, allez-y Jacques Mullier, parce que c'est une histoire
c'est fantastiquement passionnante
quand on vous lit, effectivement, dans Les Chevaux du Royaume, donc chez Belin. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on se dit, bon voilà, c'est une histoire des haras, on va nous apprendre comment on sélectionne les races, comment on fait en sorte que les races soient meilleures de génération en génération, puis on s'aperçoit qu'effectivement on touche à tout, on touche à la politique, on touche à la façon de concevoir même la société. Est-ce à l'État de prendre en main cette question des haras? Et pourquoi les nobles mêmes qui avaient en chacun dans leur tradition le fait d'avoir des haras privés sont-ils dessaisis à un moment ou à un autre de cette possibilité de le faire, parce que l'État veut prendre en main ce fonctionnement centralisé d'une certaine façon des haras? Jacques Mullier, allez-y, expliquez-nous tout ça, parce que ça, c'est passionnant.
Que les nobles soient dessaisis de ce qu'ils faisaient traditionnellement, je me demande si vraiment c'est exact.
Ah, voilà, c'est ça. On croit qu'ils sont dessaisis, ou eux-mêmes se perçoivent comme étant dessaisis de leur propre pouvoir.
Mais l'administration des haras en France, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une réponse, ou c'est un aspect essentiel de l'absolutisme, de mon point de vue. Bon, ce qui est en jeu là, manifestement, c'est effectivement le gonflement considérable des effectifs de l'armée en général et de la cavalerie en particulier. Et il faut bien que l'on monte tous ces futurs cavaliers et où trouver les chevaux. C'est là vraiment le problème. Ça n'est pas la noblesse, de toute façon, ou ce qui en reste, qui pourrait fournir la quantité de chevaux nécessaires à l'armée royale. C'est pas possible. Il faut donc trouver autre chose. Et cette autre chose, c'est à la fois d'une simplicité extrême. Il n'y a qu'à dire que tous les étalons seront des étalons royaux. Et au début, c'est bien ce qu'on dit. Et alors, ça commence à devenir extraordinaire du point de vue de la représentation. Qu'est-ce que c'est qu'un étalon royal ? Ça renvoie à la personne du roi. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. L'idée qu'aucune des juments de ce pays ne peut être couverte autrement que par un étalon royal. Enfin, c'est pas
tenable de faire de l'histoire du genre. Déjà,
c'est pas tenable, évidemment. Donc il a fallu trouver d'autres solutions avec des étalons approuvés, enfin peu importe. Mais au départ, c'est bien ça. Ça fait partie quasiment de la majesté royale. Enfin, moi, je trouve ça absolument stupéfiant. Et ça entraîne un autre problème, c'est que ce qui est mis en avant, nécessairement et dès le début, et ça correspond aussi à la monarchie française, c'est que on ne s'occupe que des étalons. Les juments, personne n'en parle. Et c'est inconcevable pour un Anglais, encore à l'heure actuelle.
Écoutez, les Anglais sont des gens... Il y aurait une sorte de loi salique appliquée aux chevaux.
Mais absolument. Mais moi, j'en suis presque intimement persuadé. Mais bon, prouver un truc pareil, c'est extrêmement difficile. Mais il n'y a qu'à regarder. L'administration des haras, ça n'est absolument pas une administration de l'élevage du cheval. Jamais ça a été ça. Dans les haras nationaux, dans les haras royaux, vous n'aviez que des mâles. Enfin, que des étalons. C'est quand même stupéfiant. Et ça correspond... Écoutez, vous n'avez pas de reine en France. Vous avez une reine en Angleterre. C'est une autre manière de comprendre la société qui se traduit là, dans l'élevage le plus important, précisément, pour la royauté française ou pour la royauté anglaise, mais avec des principes qui, dès le départ, sont complètement différents.
Daniel Roche, je vois votre œil pétiller après ce que vient de dire Jacques Mullier.
Bien sûr, parce qu'il m'inspire beaucoup, dans la mesure où, dans la théorie politique qui se soucierait de comprendre
les mécanismes de transmission et de consolidation des images du pouvoir et des représentations, le fait que le corps du roi soit complètement centaurisé est quelque chose de fondamental. Mais tout le monde s'en fiche. Si on dit ça, on vous regarde et on ne comprend pas comment ça passe. Alors que ça passe par le double cheminement de l'organisation d'un système contrôlé de la reproduction et par le système d'utilisation et de pédagogie.
Oui, et puis il suffit de voir, vous le racontez dans votre dernier livre, Daniel Roche, La gloire et la puissance, chez Fayard, il suffit de voir comment, eh bien, on a beau appeler les plus grands sculpteurs, un prince ou un roi, en l'occurrence Louis XIV, fait refaire une statue ou ne veut pas de cette statue parce qu'elle ne correspond pas à la vision qu'il a de son propre règne, d'une certaine façon. La vision d'un Louis XIV fougueux, un Louis XIV baroque, pourrait-on dire, ne correspond pas à l'idée qu'il veut donner de lui-même, et donc il va évidemment faire remiser au plus loin possible la statue équestre que lui a fabriquée, je crois, c'est le Bernin à l'époque.
C'est le Bernin, c'est un des grands débats des historiens d'art, mais qui renvoie certes à Louis XIV, mais qui puise sa force dans toute une tradition de la représentation équestre du pouvoir, commencée avec la statue de Marc Aurèle qu'on voit encore à Rome et qui s'achève je ne sais trop comment. Une autre étape serait à dire, c'est celle de la statue de Pierre Le Grand
à
Saint-Pétersbourg, qui elle aussi a suscité des débats absolument fantastiques, parce que personne ne comprenait pourquoi on avait accepté le modèle de Falconet, qui est un modèle où le prince est en déséquilibre. Mm-hmm. Alors que tout, c'est ce qui fait reste à montrer toute la force d'un modèle hippique de la représentation et de montrer que c'est un équilibre.
Alors, quand on entre dans votre travail, Jacques Mullier, on s'aperçoit qu'évidemment, vous tirez tous les fils, comme le fait d'ailleurs Daniel Roche, vous tirez beaucoup de fils, justement, qui permettent d'aller ailleurs. Par exemple, de se poser la question des représentations qu'avaient les Français eux-mêmes, enfin les gens qui vivaient sur le territoire du Royaume de France, de ce qu'était un bon cheval, de ce qu'était une bonne région qui produisait du cheval. Pourquoi le Limousin? Pourquoi la Bretagne? Pourquoi d'autres endroits? Et pourquoi pas d'autres? Alors que l'Alsace était le plus grand pays producteur, ou celui qui avait presque la plus grande densité de cheval par habitant, jamais on entend dire le cheval alsacien, etc. Alors il y a des représentations qui sont derrière tout ça, qui sont extrêmement intéressantes et que vous pointez du doigt dans votre travail, Jacques Mullier.
Qu'est-ce que c'est qu'un beau cheval? Moi, je me suis heurté constamment à cette question. Vous dites, j'ai tiré beaucoup de fils, il y en a un qui manque essentiellement, c'est, mais quelle est la mode en ce qui concerne le cheval? Moi, je suis incapable de répondre à cette question.
Alors, l'historien de la mode et du vêtement, qui est Daniel Roche, qui est à côté de vous, il y a réfléchi, il en a mis une partie dans ce livre chez Fayard.
Absolument, mais pour moi, ça a été un problème. Le beau cheval... La réponse que l'on peut faire, c'est le cheval qui est adapté à sa fonction. Le problème, c'est que le cheval remplit énormément de fonctions et que la royauté veut un type de cheval. Je dis bien un type. Ce qu'il y a de fascinant dans l'histoire de l'administration des races de ce point de vue, pour moi, c'est qu'elle raisonne non pas du tout en termes de race chevaline, qui existe pourtant dès cette époque et même bien avant, ça, tous les textes le montrent, on peut remonter assez haut, qui est le résultat essentiel, de mon point de vue, du système agraire de la région considérée, de la manière dont les éleveurs, essentiellement les éleveurs paysans d'ailleurs, parce que ce sont les plus nombreux, répondent aux nécessités économiques qui pèsent sur eux. Mmh. C'est comme ça qu'ils créent la race. Mmh. Et l'administration des races ne raisonne absolument pas en termes de race.
Il veut une norme.
Elle raisonne en termes de type. Et ça donne des catastrophes pour une race qui est relativement fixée.
C'est le colbertisme adapté au cheval, c'est quoi ?
Ah, c'est compliqué, parce que on connaît très très mal, en fait, ce qu'a fait Colbert. Mm. Et quand on voit la distribution des étalons, on s'aperçoit quand même qu'il a un certain nombre d'idées, ne pas mélanger trop de petites juments avec des grands étalons, etc. Mais comme dans l'administration des races, ce qui est important, c'est le mâle. L'idée, elle est évidente. Vous prenez un grand mâle et vous le faites couvrir une petite jument. Et comme c'est le mâle qui est dominant, qui est le plus important, on va relever les races. Enfin, c'est ces idées-là que vous trouvez.
Alors, je disais que vous y aviez réfléchi, Daniel Roche, à tout cela dans ce deuxième tome de votre histoire de la culture équestre.
L'intervention du politique exige que l'on se soit posé le problème de la coïncidence du beau et du bon, en quelque sorte. Et certains hippiatres, non des moindres, comme Garceau ou Solécel...
Qu'est-ce qu'on appelle les hippiatres? Alors, ce sont des spécialistes du cheval, sont
c'est
quoi?
Une manière de désigner les spécialistes du cheval avant la création scientifique de l'école vétérinaire. Même si les débuts des vétérinaires étaient plein d'hippiatrisme et n'était pas sans partager les préjugés et les habitudes de soins.
Bourgelat étant lui-même un hippiatre, vraiment.
Bourgelat étant lui-même un hippiatre et étant considéré comme le fondateur des vétérinaires. Donc il y a toute une tradition de réflexion agronomico-éleveuse qui passe par là et dans lequel on essaye de concilier les apports de cette production régionalisée, localisée, avec les besoins de l'État et de la cavalerie. Et c'est par là que passe le conflit, en quelque sorte.
Jacques Mullier.
Oui, mais évidemment, puisque si vous raisonnez en termes de race et en termes économiques, parce que c'est bien ce dont il s'agit, d'ailleurs avec des systèmes de sélection qui existent, à l'évidence, mais dont personne ne veut les prendre en compte, pour moi, c'était vraiment une découverte, de voir qu'il existe une sélection depuis des temps très anciens, parce que simplement il faut répondre aux lois du marché, c'est absolument clair, et que cette sélection, pour les éleveurs, pour tous les éleveurs d'animaux, c'est vrai pour les chevaux, c'est vrai pour les bovins, elle se fait par la femelle, alors que l'administration des haras repose, elle, sur
le mâle.
La primauté du mâle. Et évidemment, vous avez des conflits qui sont, insolubles. Sauf si un administrateur des haras, et c'est faciable sur l'ancien régime parce qu'ils sont, c'est pas encore une administration centralisée, qui connaît généralement très bien le pays, qui connaît les réalités économiques, qui connaît les valeurs de ce cheval local, lui va œuvrer, au contraire...
Dans le sens des éleveurs habituels de cette région.
Oui, mais en les corrigeant. En les corrigeant, en choisissant les meilleurs mâles de la race considérée. Et là, vous voyez réapparaître l'administration des races et la primauté du mâle.
Alors, il y a aussi une dimension, on parlait de l'Angleterre et de l'apport de la culture équestre anglaise, en particulier dans le domaine des courses. Et il y a de grands dégagements dans votre livre, Daniel Roche, sur le comte d'Artois, le frère de Louis XVI et ses haras, et son amour du cheval anglais en particulier, son anglophilie, pourrait-on dire. Il n'est pas le seul à la partager à ce moment-là, mais il est un de ceux qui est le plus anglophile de tous les gens qui s'intéressent au cheval. Mais il y a aussi un aspect que j'ai découvert en vous lisant, c'est l'importance d'un autre pays dans cette question-là, puisqu'on c'est l'Italie, mais pour autre chose, c'est-à-dire l'Italie des années du 15e et du 16e siècle, au moment des guerres d'Italie, quand on s'intéresse à cette région-là, on y découvre la place culturelle de ce cheval, mais aussi cette place de parade qui va ensuite se répandre un peu partout, et en particulier dans notre pays, Daniel Roche. C'est assez important, ça.
Alors là, on retrouve peut-être le problème de la mode, parce que lorsque la noblesse française peu éduquée, plus cultivée, plus habituée à se battre qu'à lire, découvre l'Italie, que se passe-t-il? Ils sont complètement submergés par un autre modèle de sociabilité. J'exagère bien sûr, et les spécialistes du 15e siècle italien me contrediraient sans doute, ou en partie. Mais en tout cas, ça se passe un peu comme ça, et cet autre modèle de sociabilité qui naît à l'ombre des grandes cours italiennes, des grandes cours urbaines, des grandes cours princières, a, dans ses principes mêmes, tels qu'ils ont été élaborés et diffusés dans toute l'Europe par Castiglione et son Cortegiano, l'utilisation de la cavalerie, du cheval, de ses principes, dans une éducation de l'homme, dans une éducation du courtisan. Donc c'est à partir de là qu'il y a une très grande transformation qui fait que de la fin du XVe siècle jusqu'au milieu du XVIIe siècle, l'Italie va être le modèle de ce qui peut construire le bel homme de cheval. Mais en même temps, et là ça mérite une toute petite cette prolongation, l'Italie, c'est aussi le moyen de découvrir d'autres modèles de chevaux. Et parce que l'Italie est intermédiaire entre l'Orient et l'Occident.
On y trouve
et
les Turcs, par exemple.
Des modèles de cavalerie comme les cavaleries orientales et des modèles de chevaux qui ne sont pas ceux de l'Europe du Nord. Donc c'est un phénomène très important.
Moi, j'ai été surpris aussi de voir dans un de vos chapitres, Daniel Rove, combien on pouvait se ruiner pour les chevaux. C'est un truc incroyable quand on voit les sommes astronomiques qui sont dépensées, en particulier dans la deuxième moitié du 18e, c'est celle sur laquelle vous vous appesantissez sur les comptes du comte d'Artois, mais également d'autres nobles que vous mettez en avant à ce moment-là. On se dit, c'est absolument incroyable ces sommes, cette passion pour le cheval qui, on l'a dit depuis le début de cette émission, est un peu mise de côté par les historiens. On ne voit pas combien on pouvait être passionné pour cet animal.
Alors là, on en arrive à retrouver encore la mode parce que l'enjeu de cette passion de la veille de la Révolution française, c'est l'anglophilie malgré tout. C'est la découverte du nouveau cheval anglais, des nouvelles manières de le produire par un certain nombre d'aristocrates français qui avaient des liens anciens d'ailleurs avec les îles britanniques, et c'est l'investissement dans ce divertissement qui est spectacle de la distinction sociale.
Alors, en même temps, né en réaction ou parallèlement, on ne sait jamais trop s'il y a une relation de cause à effet, mais l'idée qui sera ensuite propagée dans d'autres milieux, qu'il vaut peut-être mieux marcher à pied que monter à cheval. Il y a de belles pages de Daniel Rove dans son livre sur Rousseau, Jacques Mullier, et on se dit, c'est ce qui a été dit après, que la Révolution française est venue casser ce bel élan, cet élan vers les haras nationaux, en les supprimant en 1790, je crois, avant qu'il ne soit recréé par Napoléon Ier en 1806, si je ne me trompe pas, c'est ça, 1806. Donc Jacques Mullier, on voit bien, on se dit le rôle de la Révolution là-dedans, et surtout le rôle de ces débats autour du cheval comme étant des débats politiques à l'intérieur de la société d'Ancien Régime et de la société révolutionnaire naissante.
Oui, certainement, mais l'un des tout premiers nobles à être parti, avoir quitté la France dès les débuts de la Révolution, c'est, comment dirais-je, le grand écuyer.
Le prince de Lambès.
Le prince de Lambès qui, précisément, a travaillé à partir des années 1860, pour simplifier, 1760, excusez-moi, est devenu, dans son domaine, le grand écuyer. Il a eu les principales régions produisant le cheval de selle, essentiellement la Normandie et le Limousin. Or, c'est l'un des premiers à partir. C'est une autre époque qui commence, c'est évident. Et cette autre époque qui commence, c'est une époque où on entre en guerre dès 1792, et ça va durer jusqu'à Waterloo.
Et on aura besoin de chevaux.
Et on va avoir besoin de chevaux.
Et Dieu sait combien.
Chevaux ? Des chevaux d'hippodrome ? Évidemment, non.
Oui.
Évidemment, non. On a besoin de chevaux résistants, capables de se nourrir quand ils trouvent à se nourrir. On ne peut pas faire la guerre avec des chevaux que l'on recouvre la nuit avec une couverture pour éviter qu'ils attrapent froid. Et vous savez que ça, ça revient régulièrement. Pour Louis XIV, ça a été exactement la même chose. On s'est rendu compte très rapidement que pour faire la guerre, il valait mieux une bonne petite bidette bretonne, capable de se nourrir d'ajoncs et de n'importe quoi, capable de courir sans aucun problème, de tirer, etc., plutôt qu'un beau cheval sur le... Beau cheval. Voilà qu'est-ce que c'est qu'un beau cheval ? Sous l'Ancien Régime, c'est celui qui porte bien le noble qui est dessus. Enfin, je ne sais pas si Daniel Roche est d'accord avec cela.
Sur cette rupture révolutionnaire...
Alors, sur la rupture révolutionnaire, c'est une joie pour les Anglais qui, eux, sont de fins connaisseurs de ce que fabrique l'élevage britannique, ce que l'on appellera au XIXe siècle l'industrie chevaline, ce qui est un très joli terme, inventé, je crois, par le vicomte d'Or. Donc, l'industrie chevaline fabrique de très bons produits dont nos voisins sont très connaisseurs. Alors, quand on va mettre en vente, par confiscation, à la suite de leur confiscation des chevaux, enfin, de leur confiscation, non, ils appartiennent à l'État, mais on les met en vente, les chevaux des haras, ils vont être acheteurs. Et comme eux, ça ne les gêne pas du tout d'acheter aussi des poulinières, il va y avoir un échange entre notre cavalerie britannique, notre cavalerie française et les éleveurs britanniques, qui est tout à fait intéressant à suivre.
Et sur cet esprit révolutionnaire, dans la lignée de Rousseau que vous citez, donc sur l'idée d'aller à pied, du caractère démocratique par rapport justement à ces outrances dont on a parlé à l'instant même, Daniel Roche, de cette société aristocratique, il y a cette phrase de Louis-Sébastien Mercier que vous citez aussi, il y a de l'esprit dans les voitures mais le génie est à pied.
Oui, mais ça c'est parce que en quelque sorte toute une génération a passé son temps à dénoncer les méfaits du luxe, les progrès excessifs de la consommation aristocratique, et ils avaient sous les yeux la ruine du comte d'Artois, qui, à force d'avoir dépensé des milliers de livres dans l'achat des meilleurs étalons ou des meilleurs coureurs, a coûté beaucoup aux contribuables français. C'était ça le vrai problème.
Jacques Mullier,
dans ce retournement au moment de la Révolution, certainement les vétérinaires ont joué un rôle. Parce que les vétérinaires sont probablement ceux parmi les élites qui comprennent comment effectivement est organisé, enfin comment s'organise l'élevage du cheval. Et ils sont attachés, et par définition, parce qu'ils sont vétérinaires, ils savent, eux, comment on les obtient, qu'est-ce que c'est qu'un cheval, comment il est adapté à sa fonction, et non pas ces problèmes de beauté du cheval que vous trouvez dans la haute société. Pour eux, c'est clair, le cheval, il doit être bien portant et il doit répondre à l'usage. À un usage, et donc il ne faut pas le détruire. Et la position de Huzard, le père, elle est assez claire de ce point de vue. Il comprend très très bien ces questions.
Daniel Roche, pour conclure.
Bien, vous vous demandiez en introduction comment la tribu historienne avait des difficultés à comprendre l'intérêt de ce sujet. Ben, je donnerai une autre anecdote. Il y a moins de 5 ans, j'ai rédigé un article qui était le résultat d'une enquête sur les enquêtes révolutionnaires d'utilisation des chevaux, qui prouve que à l'intérieur des populations, on avait intégré ce qu'il y avait de bon dans le système des haras, on en dénonçait les excès pour un libéralisme contrôlé, mais on admettait qu'il fallait des haras, parce qu'il fallait une certaine organisation de la production étalon jument, et il fallait des vétérinaires. Cette demande du vétérinaire, dont les écoles principales à Lyon et à Paris viennent tout juste de se mettre en place, elle est partout. Alors je signale pour l'anecdote que cet article a été refusé par les annales.
Merci Daniel Roche. Enfin, vous en avez eu d'autres de publiés dans les annales, je pense.
Autrefois.
Merci Daniel Roche. Merci à vous Jacques Mullier. Je rappelle donc que nous parlions et nous continuerons à parler avec vous, puisque c'est une particularité de cette semaine. Daniel Roche, des questions de culture équestre. Demain, nous traiterons dans un documentaire de la question de la boucherie chevaline, donc le cheval quand il se mange d'une certaine façon, et c'est une particularité aussi. Mercredi, nous traiterons de la culture du cheval en ville, et jeudi, de cette culture donc autour du cheval, telle que vous l'avez développée dans vos deux livres, donc à la fois Le cheval moteur et La gloire et la puissance chez Fayard. Je rappelle, Jacques Mullier, que votre livre, eh bien, il s'intitule Les chevaux du royaume, aux origines des haras nationaux, et il est publié chez Belin. Merci encore. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission comme d'habitude, www.franceculture.fr. Vous pouvez la télécharger pendant une semaine, la réécouter pendant 500 jours, laisser vos commentaires, n'hésitez pas, ou encore discuter avec nous sur le groupe des Amis de la Fabrique de l'Histoire, sur un réseau social bien connu.